Alors, notre étude, en tout cas de ce matin, est la suite directe de ce que nous avons déjà abordé dans les fois précédentes, et notamment au mois d'octobre, et je crois même au mois de septembre. Mois de décembre prochain, ça ne sera pas l'Épître aux Hébreux, ça sera la paracha de la semaine. Mais comme on en a vu déjà beaucoup ces dernières années, donc on en a déjà mis en enregistrement plusieurs, donc on va essayer de progresser dans l'Épître aux Hébreux. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, les CD, j'en ai quelques-uns là. S'il en manque, il n'y a pas de souci, on pourra toujours en dupliquer si nécessaire et je vous l'enverrai par la poste. Alors, je ne reprendrai pas en détail tous les éléments que nous avons déjà étudiés en introduction et dans les premiers chapitres de la lettre aux Hébreux. Permettez-moi cependant un bref rappel des grandes lignes de ce à quoi nous avons déjà abouti lors des chapitres précédents, puisque tout le monde n'était pas forcément là. En octobre ou en septembre. À propos du premier chapitre et même du second, nous comprenons que l'auteur cherche à mettre en exergue la position du Messie et son titre de fils au-dessus des anges, à l'égal même de Dieu. Et son argumentaire, riche de nombreux passages vétérotestamentaires, c'est-à-dire de la Torah, de tout le Tanakh, indique une connaissance précise de l'auteur, des textes et de leur interprétation par les rabbanim de cette époque. Et dès les premiers chapitres, l'argumentaire de l'auteur est très finement construit et de nature même à dénoncer de possibles erreurs théologiques relatives à la nature du Messie ou même à sa divinité. Et la lettre va continuer sur des arguments relatifs au culte lévitique, à l'ensemble des sacrifices et de tout le système des sacrifices qui sera mis en place, ainsi qu'à l'affirmation du Messie comme souverain sacrificateur, notamment dans les chapitres suivants, et en particulier le chapitre 5 que nous allons aborder ce matin. Alors l'auteur de notre lettre s'est employé dans un premier temps à démontrer non seulement la supériorité du Messie Yeshua aux anges, mais également le rôle de celui-ci en tant qu'envoyé souverain sacrificateur dans ce monde. Yeshua se place au-dessus de Moïse, au-dessus de Josué et même de tous les souverains sacrificateurs qui se sont succédés jusque-là, et c'est important de le noter. Et ce qu'il a accompli, il l'a fait afin d'établir une rédemption parfaite et éternelle pour tous ceux qui s'approchent par lui du sanctuaire pour être sauvés. Et l'auteur décrire d'ailleurs, et c'est ce que nous avons vu le mois dernier, avec beaucoup de justesse, le repos de Dieu qui nous est réservé. Et celui-ci comporte cependant divers aspects qu'on a déjà évoqués la dernière fois. Il y a bien sûr une dimension temporelle qui lui est indéniable ici-bas, et nous pouvons aussi goûter à ce repos dès à présent. Le Shabbat en étant quelque part une illustration de ce repos, à l'instar de ce que Dieu exprime au terme de la création. Et puis on peut même percevoir une dimension, une perspective eschatologique pour Israël et pour tous ceux qui embrassent la foi du patriarche Abraham. L'instauration d'un royaume messianique sera assurément le repos qui, pour l'heure, semble assez difficile en tout cas à décrire. Il en va aussi d'une autre dimension spirituelle, celle-là, que l'on comprend aisément, pour qui se repose de l'œuvre de Dieu pour son propre salut, la mort étant une délivrance et l'entrée dans un repos, dans une attente de la résurrection, en quelque sorte. Il y a le repos ici-bas, et puis il y a le repos que l'on attend au-delà de la mort qui nous attend tous. Quoi qu'il en soit, l'auteur de la lettre aux Hébreux s'inscrit avant tout dans un aujourd'hui, un présent, et une actualité qu'il souhaite paisible, un encouragement pour ses lecteurs afin de tout à la fois entrer et demeurer dans le repos de Dieu. La lettre témoigne de la compréhension du salut en Yeshua à une époque par des hommes et des femmes qui n'ont pas été les premiers témoins ou les premiers interlocuteurs de Yeshua dans le cours de sa vie. Et pour nous, nous sommes un peu dans la même condition. Nous n'avons pas connu Yeshua sur la terre et nous sommes un peu dans la même attente que ces premiers disciples auxquels l'auteur de la lettre aux Hébreux s'adresse. Alors ça, c'était les mois derniers, Abordons à présent le texte du chapitre 5, et nous reprendrons déjà d'ailleurs au dernier verset du chapitre 4, qui s'articule en fait avec le chapitre 5. En fait, on a un découpage un peu arbitraire, mais la continuité des thématiques commence au-delà du découpage chapitre par chapitre. Donc, on va commencer au verset 14 du chapitre 4, donc les trois derniers versets. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yeshua, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. L'auteur, en quelques mots, résume la démarche qui a été celle de Dieu. Yeshua est le souverain sacrificateur qu'il nous fallait pour tenir ferme dans notre foi. Il est le souverain sacrificateur venant du ciel. Or, ce qui vient du ciel relève d'une excellence plus grande que ce qui provient de la terre et qui, par nature, n'est qu'éphémère. Il a traversé le ciel, nous est-il dit, l'indice probable d'un témoignage visible auprès des êtres célestes eux-mêmes. Et puisque Yeshua, fils de Dieu, est supérieur aux anges, à Moïse, à Josué et bien d'autres, eh bien sa médiation ne peut qu'en être supérieure. D'une certaine manière, il se distingue également en ce qu'en quelque sorte, il ouvre la voie pour nous en nous instruisant au-delà du voile, quoique lui-même est descendu sur la terre par-delà le voile. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, Yeshua est venu du ciel, quelque part par-delà le voile, mais il a traversé pour nous, en inaugurant le chemin, par-delà le voile. Par-delà le voile. Donc, le souverain sacrificateur était le médiateur visible à l'époque du Lévitique, à l'époque de l'économie lévitique. Il était donc ce médiateur visible de tous les Israélites, qui, une fois l'an, à Yom Kippour, venait au-delà du voile, présenter le sang et faire la kapara, c'est-à-dire l'expiation, pour lui et tout Israël. Et Yeshua est donc le souverain sacrificateur venu du ciel pour accomplir la rédemption de nos âmes, c'est-à-dire le rachat de nos âmes. Et dans notre verset, toutefois, l'auteur n'entre pas encore dans l'énoncé proprement dit du processus d'expiation par le sacrifice et le sang qui doit être versé. Il y viendra dans les chapitres qui suivent, et ça, ce sera donc dans les fois suivantes. Il souhaite mettre en avant la raison même qui doit pousser ses lecteurs à tenir ferme dans la foi. Car le prix payé par Yeshua pour nous sauver a été, bien sûr, au-delà de toute mesure. L'auteur développe les arguments en faveur d'un effort manifeste des croyants, donc ses interlocuteurs, à rester ou à tenir ferme dans leur foi. Yeshua a quitté la gloire céleste pour s'abaisser à notre niveau et compatir à notre faiblesse. Il était donc nécessaire qu'il agisse ainsi afin que nous soyons encouragés nous-mêmes dans notre foi. S'il n'en avait pas été ainsi, s'il était tout simplement venu avec puissance et avec gloire, en quoi aurions-nous été encouragés ? C'est bien parce qu'il a embrassé notre propre condition de faiblesse que nous pouvons pleinement nous appuyer sur sa victoire. Parce qu'il a remporté la victoire alors qu'il avait embrassé notre faiblesse. Alors il est vrai que la longue lignée des souverains sacrificateurs, par leur humanité et leur faiblesse, était déjà tout à fait en mesure, quelque part, de compatir à nos limites, comprenant parfaitement et nos chutes, et eux-mêmes soumis au même trébuchement dans leur foi. Ceci étant, contrairement au souverain sacrificateur qui s'était succédé jusque-là, Yeshua a été un sacrificateur exemplaire par la victoire qu'il a remportée sur la tentation et le péché. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux veut donc mettre l'accent sur la parfaite humanité du Messie Yeshua, qui, comme nous, a été soumis aux mêmes épreuves, mais a cependant été victorieux jusqu'à la mort. Et c'est justement sur ce point que je me demande si les premiers lecteurs de cette lettre n'étaient pas tout simplement soumis à l'épreuve et à la persécution à cause de leur foi, et qu'ils craignaient tout simplement pour leur vie. Et donc l'exhortation de l'auteur de la lettre est là pour les encourager à tenir ferme, même dans la persécution, même dans l'épreuve, et peut-être même jusqu'à la mort. La peur de la mort, la tentation de renier le maître pour surmonter l'épreuve, ou toute autre tentation de péché, devait tirailler les frères qui étaient donc interlocuteurs ou lecteurs de l'auteur de la lettre aux Hébreux. Et contrairement aux apparences, ces premiers chapitres ne condamnent pas le lecteur de la lettre ou les lecteurs de la lettre. Il s'agit moins d'une mise en garde que d'un encouragement, j'allais dire ferme, à tenir ferme. Oui, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, car le Messie Yeshua, souverain sacrificateur, supérieur aux anges, à Moïse et Josué, est parfaitement en mesure de nous faire surmonter les épreuves du moment, quelles qu'elles puissent être. L'auteur poursuit sa comparaison en rappelant la faiblesse des souverains sacrificateurs liés à leur nature humaine et au péché. En effet, tout souverain, nous sommes au début du chapitre 5, si vous suivez dans votre Bible. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Bonjour, prenez place. Je crois qu'il y a assez de chaises cette fois-ci. Donc c'est Hébreux 5, versets 1 à 3. Car si le Mashiach, donc le Messie, a embrassé notre faiblesse pour remporter finalement la victoire sur l'épreuve, ce n'est pas le cas des souverains sacrificateurs soumis à la faiblesse et à la mort. Il était nécessaire qu'ils apportent du sang au-delà du voile pour tout Israël, mais aussi pour eux-mêmes, témoignant de cette manière des limites qui étaient celles de leur médiation. Verset 4. Nul ne s'attribue la dignité, cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et le Messie ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Voilà un texte un petit peu obscur. Le choix du souverain sacrificateur ne reposait pas sur un quelconque mérite de qui que ce soit, car cette fonction était transmise de père en fils suivant la lignée d'Aaron. Un choix appartenant à Dieu seul, selon le principe de la dignité du fils premier-né. Et notez bien cela, parce que c'est important, parce qu'il y a un parallèle avec la personne de Yeshua comme souverain sacrificateur. Et c'est là que l'auteur fait référence, en ce qui concerne Yeshua, à un choix électif, selon un principe déterminé par Dieu, et en vertu d'une déclaration divine sur laquelle nous allons nous attarder un peu plus longuement. Il cite au verset 5, « Mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et ici, l'auteur fait référence à un passage du psaume 2, au verset 7. Et ici, cette citation n'est pas anodine. D'autant qu'il est fait ensuite référence à une sacrificature, selon un ordre d'un personnage des plus mystérieux, qui est celui de Melchisédek. Mais on va y revenir tout à l'heure. Comme je viens de l'évoquer, le souverain sacrificateur tient sa dignité élective, non de lui-même, mais en vertu de son ascendance, ici en l'occurrence celle d'Aaron. Pour Yeshua, cependant, son statut de souverain sacrificateur, tout en relevant du même principe filial, ne s'appuie pas sur la lignée d'Aaron, mais sur celle de Dieu lui-même. La référence de l'auteur tend donc à réaffirmer cette dignité supérieure en lien direct avec sa position de fils, déjà évoquée dans les premiers chapitres, souvenez-vous. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, comme du reste pour la presque totalité des rabbanim de toutes les époques d'ailleurs, le psaume 2 a assurément un caractère messianique et prophétique. Quoique l'auteur en soit le roi David, la dimension prophétique du texte est confirmée par la plupart des rabbanim, même s'ils n'interprètent pas tous le verset en question, le verset 7, de la même manière. David a probablement écrit d'ailleurs ce psaume à l'occasion de son propre couronnement. Et dans un contexte de tension encore palpable avec les Philistins d'un côté et les royaumes voisins d'Israël de l'autre. Et David proclame que le choix de Dieu sur lui est irrévocable et qu'il est comme un fils au regard de Dieu, lui-même en ayant eu quelque part la révélation prophétique. Donc David est considéré, et il se considère, comme un fils au regard de Dieu. L'expression « je publierai le décret » en hébreu « aspera el hoc » est diversement traduit, mais permet cependant d'affirmer que ce que s'apprête à énoncer le psalmiste dans notre citation est quelque chose d'important, de préexistant, et même décrit dans la loi ou dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'un seul coup de subi, mais quelque chose inscrit dans la pensée de Dieu. Ici, David est considéré comme un fils. De fait, cette filialité proclamée au moment de son couronnement assure à David l'héritage d'Israël, un peuple qui lui est acquis et pour lequel il se donnera lui-même, pour ainsi dire, corps et âme, ce que finalement peut-être on attend d'un souverain. Cette filialité est aussi en quelque sorte à relier à l'alliance que Dieu fait avec David de lui assurer une descendance qui règnera pour toujours sur son trône. On va lire à ce sujet 2 Samuel 7, à partir du verset 8. Donc 2 Samuel 7, verset 8. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Maison ici, en sens figuré, ce n'est pas une maison en pierre. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant moi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Souvenez-vous, David avait eu l'intention de construire un bâtiment pour le sanctuaire de l'Éternel. Et en définitive, la réponse de Dieu dépasse et même transcende l'intention première de David. Dieu établit avec lui une alliance éternelle relative à sa descendance sur son trône, donc sur celui d'Israël. Cette alliance a de plus une portée prophétique relative au Messie qui doit venir. Le caractère éternel de cette alliance marque ici une dimension qui dépasse une réalité humaine, mesurable et clairement identifiable. On dépasse bien entendu simplement l'établissement du règne de Salomon qui succédera à David. On va bien au-delà de cette réalité mesurable. Comme nous le rappelle d'ailleurs 2 Samuel 23, verset 5, « N'en est-il pas ainsi de la maison devant Dieu, de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle ?» Ça ne s'arrête pas à Salomon. « En tout point bien réglé et offrant une pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ?» 2 Samuel 23, 5. Une alliance éternelle. Dans ce dernier passage qui relate les dernières paroles de David avant sa mort, il est souligné le caractère éternel de cette alliance avec David et la perspective de voir émerger de cette descendance le Messie annoncé. Un Messie éternel, un Messie doté du même statut que David, c'est-à-dire celui de fils. Le fils proclamé dans le psaume 2, qu'on a lu tout à l'heure, est littéralement en hébreu « engendré » ou « enfanté ». En hébreu, ce sont ces termes-là. Signifie rien de moins, à mon sens, qu'une filialité véritable et non figurée du Messie annoncée dans la descendance du roi David. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un de mystique, quelqu'un d'un peu nébuleux. Non, c'est quelqu'un qui doit être né de la chair. Le Messie est bien né de la chair. D'accord ? Le statut de fils sous-entend, en revanche, un héritage qui vient du Père, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Si l'on considère, comme le présente le psaume, le fils de David, finalement, comme le fils de Dieu. Les sages d'Israël ont tenté des approches différentes, comme celle d'identifier le fils dans sa dimension prophétique, à Salomon ou même à Israël lui-même. Mais ces propositions se heurtent à, d'une part, le caractère éternel du Messie appelé fils, ce qui n'est pas le cas de Salomon, bien entendu, qui est déjà mort depuis longtemps. Alors que dire au sujet d'Israël, qu'on a du mal à décalquer sur les derniers versets du psaume 2. Donc on a un peu de mal, mais les rabbinim ont parfois essayé de tergiverser sur la compréhension de cette notion de fils dans le psaume 2, tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un psaume messianique. Alors il y aurait encore beaucoup à dire sur ce psaume, mais nous retiendrons pour l'heure que le fils est ici celui associé au Messie annoncé dans le psaume 2, et que le statut de fils lui confère l'héritage de la promesse selon une filialité par David. Non seulement c'est une filialité, mais c'est une filialité par David. Reste qu'ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux établit un lien direct entre le statut de fils, héritage de la promesse faite à David selon une alliance éternelle, et la sacrificature dont Yeshua est l'ultime sacrificateur, si on peut dire, selon un ordre qui, comme on va le voir, est marqué par le même caractère éternel. L'auteur de notre lettre vient à mentionner un personnage très singulier et plusieurs passages sur lesquels on va se pencher un peu plus longuement. Verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, on a toujours cette notion d'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Alors il n'y a guère que trois auteurs et à trois époques radicalement différentes, très différentes, qui mentionne le personnage de Melchisédek. Le premier passage est dans Béréchit, c'est-à-dire livre de la Genèse, au chapitre 14. Verset 17. Lorsqu'Abraham revint après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. La vallée Chavé, c'est à l'est de la mer Morte. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes, que le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham, et béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. » Et Abraham lui donna le dixième de tout le butin. Alors, vous connaissez sans doute le contexte, hein, c'est Abraham qui a donc fait la guerre à ces cinq rois de Mésopotamie pour délivrer en fait son neveu Lot. Et le voilà de retour de la bataille et qui, Melchisédek, vient à sa rencontre dans la région. Alors nous apprenons dans un premier temps que Melchisédek, qui signifie « roi de justice », est le roi de Salem, et ici sans doute identifiable à la montagne de Sion, qui se rappellera plus tard Jérusalem. Il est aussi désigné comme un prêtre du Dieu Très-Haut. Il s'agit donc d'un sacrificateur, d'un Cohen. Il est donc roi de Salem, mais c'est aussi un Cohen, c'est aussi un prêtre. Il cumule les deux fonctions de roi et de prêtre. Ce qui n'était pas dans la loi d'Israël, qui existait un petit peu dans certaines tribus, donc dans certaines régions de Canaan, mais qui est assez, en tout cas, qui n'est pas commun à Israël. Il n'existe pas dans Israël. Il y a une séparation entre la notion de prêtrise et celle de l'autorité d'un roi. Alors, plusieurs remarques, donc, justement, s'imposent à ce stade. Si l'on peut considérer que Melchisédek est prêtre avant l'ère des Kohanim, on est bien avant la promulgation de la loi, hein. Donc avant la période du Lévitique, il cumule en plus le titre normalement, que normalement aucun Kohen ne pourra avoir durant la période Lévitique. Il est donc roi. Or, à aucun moment dans la Torah et le Tanakh, un Kohen ne pouvait prétendre accéder à la royauté. Inversement, un roi ne pouvait pas davantage accéder à la royauté. Voilà, prêtrise, pardon. Ça va, vous suivez. Cette singularité constitue un élément clé pour identifier notre personnage. En principe, et selon la loi de Moïse, le roi devait être issu de la lignée de Juda, tandis que les prêtres étaient donc issus de la lignée de Lévi. Donc on ne pouvait pas avoir de confusion entre les deux. Et pour les rares fois où un roi rebelle, un roi d'Israël rebelle, a voulu se substituer à un prêtre, ça ne s'est pas bien passé. Alors, si l'on met de côté la remarque que je viens de faire au sujet du roi et du prêtre, Rashi, donc pour ceux qui ne savent pas, Rashi est un des grands maîtres du judaïsme du Moyen-Âge, Rashi identifie Melchisédek à Sem, l'un des fils de Noé, que la tradition présente comme un prêtre de Dieu. Alors, il est vrai qu'il est encore vivant, hein, Sem, à ce moment-là, à cette époque, et qu'il a même sans doute été consulté par Rebecca par la suite, au sujet des jumeaux qui s'agitaient dans son ventre, dans Genèse 25. Ceci étant, le texte biblique ne présente pas Melchisédek comme le fils de Sem, le fils de Noé, pardon. Et il semblerait d'ailleurs un peu étonnant que l'auteur de Bereshit occulte une telle vérité sur le personnage. Rashi présente aussi le partage du pain et du vin, c'est quand même intéressant qu'on parle de pain et de vin juste à ce moment-là, entre Melchisédek et Abraham, comme une anticipation des sacrifices qui seront offerts plus tard conformément à la loi. Quoi qu'il en soit, ce partage avec les éléments symboliques du Kiddush, comme de la Hala, le Shabbat, n'est pas sans rappeler en effet un sacrifice sur l'autel. Abraham offre ensuite la dîme du butin de tout ce qu'il avait donc récupéré à Melchisédek, conformément aux exigences de la loi, et comme le feront ensuite les Israélites à l'égard des sacrificateurs lévites. Il y a comme une anticipation de la loi ici. Melchisédek bénit Abraham devant tous les rois réunis, une manière sans doute aussi de faire la distinction devant tous, entre d'un côté Abraham et sa famille, et de l'autre toutes les autres nations alentours. Alors de ces quelques remarques préliminaires, il ressort quand même quelques questions évidentes. Si Melchisédek revêt une telle importance dans ce contexte, en étant à la fois roi et sacrificateur, l'instrument d'un témoignage et d'une bénédiction particulière pour le patriarche Abraham, pourquoi n'en parle-t-on pas davantage dans le reste du livre de Bereshit? Pourquoi n'en parle-t-on que à ce moment-là? Alors que quand même, un personnage qui serait à la fois roi et prêtre de Dieu pourrait avoir son importance dans l'ensemble du récit des patriarches. Mais ce n'est pas le cas. Le personnage de Melchisédek ne semble pas, du moins ne nous l'est-il pas rapporté, avoir d'ascendance ni de descendance qui marque l'histoire. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qui vient après. Le texte est muet. Ce roi est comme un peu parachuté dans l'histoire biblique sans autre explication. Ce roi prêtre est donc le précurseur d'un ordre sacerdotal qui se caractérise par une transmission selon un principe qui n'est pas celui d'une filialité humaine identifiable. Vous me suivez ? Cela signifie qu'un sacrificateur, selon sa filialité, devait l'être en vertu d'une déclaration solennelle de celui qui a une autorité incontestable, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Pour être sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, un Melchisédek sans ascendance et sans descendance, il fallait que cette manière de devenir sacrificateur le soit par une déclaration solennelle de la part de Dieu lui-même qui a toute autorité, puisqu'il n'y a pas de transmission par une filialité identifiable. Le second passage, donc ça c'est le premier passage, Genèse 14. Le second passage est autrement plus parlant car il revêt indiscutablement un caractère prophétique. Il s'agit du psaume 110 au verset 4, un psaume de David également. Psaume 110, on va lire versets 1 à 7. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira pas, point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Voilà à nouveau notre personnage. Et le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres, il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Voilà un psaume qui indiscutablement nous parle du Messie à venir. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui le disent, même les juifs pensent qu'il s'agit ici du personnage du Messie qui vient. Et alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons, dès le premier verset en fait, une citation dans l'évangile de Matthieu, qui est repris donc par Yeshua lui-même à l'adresse des pharisiens. Matthieu 22, on va commencer au verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Yeshua leur posa cette question : que pensez-vous du Messie ? De qui est-il le Fils ? Ils lui répondirent : de David. Et Yeshua leur dit : comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit : le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Il s'agit donc de cette citation du psaume 110. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Question logique. Nul ne put lui répondre un mot et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Alors il est intéressant que de ce verset, Yeshua, comme indirectement les pharisiens, font le même constat. Le verset 1 présente une apparente contradiction entre Dieu qui fait une déclaration solennelle au sujet de celui que David désigne comme son Seigneur et que Yeshua désigne comme le Messie. Or, David est en cette période à son apogée et il n'est lui-même soumis à aucun roi de la terre. Ce sont même ces derniers qui lui sont soumis. S'il n'est pas lui-même soumis à un roi humain, il faut donc en conclure qu'il l'appelle son Seigneur, Dieu lui-même. C'est du reste de cette apparente contradiction que Yeshua veut parler avec les pharisiens. Il va d'abord reprendre une affirmation à partir du psaume 2, acceptée par les pharisiens, qui est de dire que le Messie est fils de David, donc de la lignée de Juda, et donc potentiellement roi d'Israël. Et Yeshua de poursuivre avec le psaume 110 où le verset 1 semble affirmer une incongruité monumentale. Comment le fils de David, c'est-à-dire le Messie, peut-il être appelé par David son Seigneur ? Dieu lui-même. Il n'y a qu'une réponse possible à cette question. Le Messie, fils de David, est éternel, et donc Dieu lui-même. C'est embarrassant pour les pharisiens, mais c'est une réalité, je dirais, une conclusion assez évidente. C'est du reste ce que suggère le texte lorsqu'il dit de la part de Dieu à son Messie « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme escabeaux sous tes pieds. » Vous pouvez avoir des nuances dans vos versions, et globalement, c'est cela. L'expression « siéger à ma droite » signifie clairement que le Messie est à l'égal de Dieu. En effet, personne ne pouvait se tenir à la droite d'un roi sans être roi lui-même, et égal en statut à ce dernier. On peut trouver ce genre d'allusion dans 1 roi 19 où Bathsheba a le statut de reine-mère aux côtés de Salomon et dispose d'un trône à la droite de celui de Salomon. Dieu parle aussi de sa droite comme de Dieu lui-même dans Ésaïe 48, verset 16. Donc celui qui se tient à la droite de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au verset 4, nous avons donc notre affirmation centrale de l'Éternel lui-même concernant son Messie. Verset 4, l'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisédek. Le Messie, fils de David, est à la fois roi, se tenant donc à la droite de Dieu, et prêtre, Cohen, selon la ligne ou l'ordre de Melchisédek. Alors, plusieurs remarques à ce stade également. La déclaration divine est relative au Messie, qui cumule donc les fonctions de roi et de prêtre, sacrificateur, tout en même temps. Il a les deux en même temps. Cette déclaration est immuable dans le temps, le Messie a donc un caractère éternel, et ses fonctions le sont également. Or, à l'époque de David, les fonctions de prêtre et de roi donc, n'étaient pas cumulables. Il fallait donc que l'avènement du Messie intervienne dans une période de réforme où la sacrificature, selon l'ordre d'Aaron, était abolie au profit de celle, selon l'ordre perpétuel, de Melchisédek. Car ce qui distingue les deux sacrificatures, c'est l'une qui est temporelle et l'autre qui a un caractère éternel. Le Messie est à la fois éternel, se tenant à la droite de Dieu, et souverain sacrificateur, intercédant auprès de Dieu en faveur des hommes. Le début du verset souligne la déclaration de l'Éternel sous la forme d'un serment. L'Éternel l'a juré, c'est un serment, et il ne s'en repentira point, comme pour encore mettre l'emphase sur ce serment. Cette déclaration rend solennelle et irrévocable l'établissement du Messie comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le roi prêtre de Genèse 14. L'auteur de notre lettre aux Hébreux est le troisième, maintenant, à évoquer ce personnage en rappelant l'annonce prophétique de Genèse 14 et du psaume 110. Donc on avait d'abord Béréchit, on a les psaumes, et là on arrive à notre texte justement, de la lettre aux Hébreux. Le roi Messie est donc également souverain sacrificateur d'une alliance nouvelle dont le caractère est éternel. On peut dire que quelque part il y a un lien entre cette sacrificature au caractère éternel et l'alliance nouvelle qui est elle aussi est éternelle. L'ordre d'Aaron a pris fin en même temps que le temple. Et même, pour ainsi dire, des événements entourant la mort et la résurrection du Messie quelques années auparavant. D'ailleurs, un événement qui est raconté partiellement dans le Talmud, au sujet du bouc émissaire de Kippour, j'en ai déjà parlé ou même mentionné dans le journal, de cet épisode assez singulier. À l'époque de Yeshua, au moment de sa mort et de sa résurrection, eh bien, il y a eu un événement au moment de Kippour, où normalement, on présentait, vous savez, les deux boucs. L'un était sacrifié, l'autre était lâché dans le désert. Et quelqu'un était chargé de le chasser dans le désert, voire même ensuite de le précipiter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un cordon écarlate qui était attaché aux cornes de ce second bélier. Et la tradition évoque l'idée que les Israélites savaient que leur péché était pardonné à Kippour lorsque le cordon devenait blanc, signe du péché expié, effacé. Or, justement, au moment où Yeshua, à cette période-là, où Yeshua est mort et ressuscité, le cordon, le brin de laine n'est pas redevenu blanc. Et si, au-delà de cet épisode un peu particulier qui est mentionné dans le Talmud, ce qui est intéressant, c'est que les rabbanim, les maîtres du judaïsme de cette époque, ont interprété ce signe comme étant la fin de l'économie lévitique. La fin de l'économie et de la sacrificature selon l'ordre d'Aaron, tout simplement. Et quelques années après, viendra la destruction du temple. Or, la nouvelle alliance dans le Messie devait aussi être présidée par un souverain sacrificateur dignement désigné par Dieu lui-même et par la force du serment. Et c'est ce que déclare notamment l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 17. « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà une déclaration solennelle de la part de Dieu. Et Dieu confirmera encore ce serment par la résurrection elle-même de son Fils. Mais poursuivons au chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Une longue phrase. Le celui dont il est question est bien entendu Yeshua lui-même. C'est lui qui a traversé ces épreuves. Les commentateurs ne sont pas tous d'accord pour savoir si les cris et les supplications et les larmes concernent l'ensemble de la vie de Yeshua, lors de son incarnation donc, ou simplement l'événement singulier du jardin de Gethsémané, où le Seigneur va exprimer toute la souffrance qui était la sienne jusqu'à transpirer des grumeaux de sang. Je ne vais pas revenir sur le texte lui-même, mais vous le connaissez sans doute. Alors je penchais quand même pour la description ici de l'auteur de la lettre aux Hébreux de l'événement singulier du jardin de Gethsémané, de ces souffrances intenses qu'a vécu Yeshua au moment de son épreuve juste avant sa crucifixion. On y retrouve la tension palpable entre le désir légitime d'échapper à la mort et en même temps la volonté suprême d'accomplir la mission qui était la sienne. Au verset 8, on peut peut-être être embarrassé par cette notion d'apprentissage, de l'obéissance dont il est question, quoi qu'il fût le Fils, et ce, au travers de ses souffrances. Habituellement, l'obéissance chez l'homme passe par l'apprentissage, par ses échecs, et non uniquement par ses réussites. Ici, il en va tout différemment, sans doute. Il y a un passage obligé du Messie par les souffrances pour apprendre l'obéissance. Pour Yeshua, peut-on dire que le passage par les souffrances est une obéissance non spontanée, mais apprise avec succès. Je pèse mes mots en disant cela. À moins que l'expression ici que nous avons au verset 8 et 9 soit en résonance avec le verset 9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Finalement, l'obéissance du Seigneur dans ses souffrances est alors un exemple pour les disciples, les croyants juifs messianiques destinataires de la lettre, peut-être prêts à souffrir jusqu'à la mort en vue d'un salut éternel. Verset 10, « Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. » L'auteur poursuit là en réaffirmant la validité de ce salut éternel par le fait que le Messie roi et prêtre a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, une alliance qui se distingue de celle d'Aaron, par son caractère éternel. Alors j'en conviens, la comparaison entre les deux sacerdoces, celui d'Aaron et celui de Melchisédek, n'est pas évidente à saisir. Mais nous y reviendrons sans doute dans les chapitres, dans le chapitre 7, puisque on reprend de nouveau cette notion-là dans le chapitre 7, mais ça c'est pas pour tout de suite, donc au sujet de Melchisédek. Alors peut-être que je verrai à faire peut-être un contrôle des connaissances pour savoir si tout le monde a acquis la différence entre la sacrificature d'Aaron et celle de Melchisédek le moment venu. Non, je ne suis pas sérieux. C'est que l'auteur de notre lettre poursuit en fait d'une manière assez peu, un peu curieuse et n'hésite pas à reprendre ses lecteurs sur ce qu'il vient peut-être même d'évoquer. Rassurez-vous, je n'en ferai rien, parce que quand on lit la suite, on se dit, mais là, il y a quelque chose qui m'a échappé, quelque chose que je ne comprends pas bien. Verset 11, quand il dit, nous avons beaucoup à dire à ce sujet, là-dessus. Et ce que j'ai dit ce matin, peut-être vous dites, oh là là, c'est compliqué, je ne suis pas... Et on en a encore beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Verset 11. Des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Comprenez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. Hein. On peut se demander comment les lecteurs sont-ils devenus si lents à comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Il ne s'agit pas ici de mauvais élèves qui rechigneraient à apprendre les bonnes leçons de leur rabbi. Rien à voir. Il s'agit de personnes qui entrent dans plusieurs cas de figure possibles. Je vais en citer trois. Il peut s'agir de croyants qui en sont peut-être au début de leur cheminement spirituel et qui en sont encore à devoir assimiler les rudiments de la foi et peut-être avec un peu de difficulté. Deuxième option, il peut s'agir aussi de croyants qui connaissent bien les bases de la foi mais qui refusent, par paresse peut-être, d'aller plus loin et de servir de modèle au troupeau. Enfin, troisième option, il peut s'agir aussi de croyants qui refusent de progresser dans leur foi en allant plus loin dans la compréhension de la parole et refusant du même coup de quitter en quelque sorte le cocon familial, spirituel, pour endosser leur rôle de guide des autres frères de la communauté. Comme quoi, il peut y avoir pas mal de possibilités. Le ton est quand même singulièrement celui du reproche, comme énoncé au verset 12. Versets 12 et 13. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » En définitive, l'auteur de notre lettre s'adresse à des Juifs croyants en Yeshua, à qui il fait le reproche de n'être pas encore des croyants mûrs et capables de comprendre les choses qu'ils considèrent comme les premiers rudiments. Ce qu'on vient de voir au chapitre 5. De ne pas vouloir atteindre le stade du discernement du bien et du mal est la marque de la maturité spirituelle à laquelle tout croyant doit pourtant aspirer. Le risque est grand ensuite de se laisser entraîner au naufrage en ce qui concerne la foi. Alors on appréciera peut-être le caractère élémentaire de ces premiers rudiments dont il est question et la nécessité d'atteindre une maturité qui nous fasse produire des fruits de justice. Paul, l'apôtre Paul, énonce les mêmes principes de croissance et de maturité dans 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2. Quand il dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants dans le Messie. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Ce qui ressort de ce passage de Paul aux Corinthiens en relation avec Hébreux 5 est qu'il y a différents stades de maturité spirituelle. Le stade de l'enfant, du nouveau-né spirituel, celui qui découvre la foi et qui commence son cheminement avec le Seigneur, qui a besoin de lait et qui est bien incapable de se nourrir d'aliments plus solides, si on peut dire. Ce lait spirituel consiste en les principes élémentaires de la foi qui conduisent vers une maturité et une capacité progressive à discerner le bien du mal, ce qu'il convient de faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Verset 14. À se conduire moralement et éthiquement conformément aux exigences de la parole. Et ensuite, ceux qui ont déjà reçu cet enseignement basique de la foi, qui sont censés avoir déjà cheminé, mais dont la conduite ne reflète pas une obéissance aux exigences divines, qui restent dans l'instabilité spirituelle, incapables d'accéder à une nourriture plus solide. Enfin, il y a ceux qui, par l'exercice de la justice et l'obéissance au commandement, ont appris à discerner le bien du mal et qui, sans revenir aux choses élémentaires, sont à même d'aller plus loin dans une maturité d'homme fait. Ici, on a en grec parfois la traduction d'homme parfait, mais en fait, la réalité, c'est d'homme mûr dont il est question, pour reprendre donc cette expression de l'apôtre Paul. Alors, il ne faudrait pas avoir ici une graduation qui placerait la nourriture solide comme en quelque sorte de meilleure qualité ou de plus grande valeur que le lait. En réalité, à chaque stade, sa nourriture adaptée. Il y a des signes, cependant, qui permettent de discerner le niveau de maturité de chaque croyant. L'apôtre Paul ne mâche pas ses mots, si j'ose dire, pour dénoncer les écarts de maturité de ses interlocuteurs corinthiens. 1 Corinthiens 1, 3, 2. Je vous ai donné du lait non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors nous ne sommes pas non plus dans une différenciation intellectuelle des croyants. Comme s'il y avait d'un côté les théologiens capables de suivre tout à la lettre, en hébreu ou en grec, le message de la parole et d'en approfondir toutes les finesses. Et puis de l'autre côté, il y aurait les petites gens moins dotés sur le plan intellectuel et incapables de ce genre d'exercice. Non, la maturité ne se mesure pas à ce genre de considération. L'auteur de la lettre aux Hébreux veut plutôt mettre en exergue leur immaturité et avertir ses lecteurs qu'ils en sont encore à devoir recevoir ce qui est pourtant essentiel à leur foi et à devoir s'y conformer. Tandis qu'avec le temps, ils auraient dû être de ceux qui sont les modèles du troupeau. Car le rabbi, le maître, n'est pas forcément la tête bien pleine, mais surtout celle qui sait transmettre à son prochain ce qu'il a reçu. Être un modèle du troupeau. Alors il nous faut conclure quand même. Et une fois de plus, le texte est chargé de références qui parfois nous dépassent un peu. Je dois en convenir, même pour moi. La complexité du texte ne doit pas nous effrayer outre mesure. Nous n'avons qu'effleuré quelques versets, mais l'essentiel est justement notre capacité à retenir ce qui est fondamental pour aller plus loin et rechercher ce qui est à transmettre, à savoir l'exercice du discernement du bien et du mal. Verset 14. « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Amen.